Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, hirondelles, cigognes ou encore bécasses, ces oiseaux ont tous un point commun, ce sont des oiseaux migrateurs. Pour cette nouvelle émission Éclairage, en coproduction avec l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l'ONCFS, je vous propose de vous intéresser à ce phénomène encore un peu mystérieux qu'est la migration chez les oiseaux, et dont les routes migratoires n'ont que peu varié en 10 000 ans. Nous avons la chance en France d'être un formidable terrain d'observation des oiseaux migrateurs, car sur le plan géographique, la France est une étape cruciale pour des millions d'oiseaux. Alors pourquoi certaines espèces d'oiseaux migrent-elles? Quels sont les mécanismes déclencheurs de la migration? Comment ces oiseaux repèrent-ils leur trajectoire, surtout lorsqu'il s'agit de leur première migration? Et comment étudier ces populations mouvantes, sujettes aux perturbations climatiques et à l'impact de la main de l'homme? Voici quelques questions parmi bien d'autres que nous allons pouvoir adresser à notre invité, qui a pris place au studio de Canal Académie, Yves Ferrand. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie. Vous êtes responsable scientifique du réseau Bécasses et Bécassines à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et auteur, je le précise, de La Bécasse des Bois, Histoire Naturelle aux éditions Effelisière, publiée en 2009. Yves Ferrand, pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle un flux migratoire ?
Évidemment, c'est la question première, hein, parce qu'il y a des déplacements d'oiseaux, en particulier un petit peu erratiques, que l'on ne peut pas qualifier de migration à proprement parler. Donc, un flux migratoire, eh bien, c'est un déplacement d'une aire de reproduction vers une aire d'hivernage et d'une aire d'hivernage vers une aire de reproduction. Donc, cela correspond à un cycle annuel. Ce sont des déplacements orientés et qui sont donc aux deux pôles de l'activité des oiseaux.
Alors, on parle des oiseaux. Vous me le disiez en préparant cette émission qu'il y a bien sûr d'autres animaux qui migrent, mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont uniquement ces oiseaux.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'autres espèces qui migrent. Parmi les mammifères, on connaît des mammifères migrateurs. Parmi les poissons aussi, tout le monde connaît le saumon, hein, qui est un poisson migrateur. Mais peut-être moins connu ou plus étrange, ce sont des insectes migrateurs. On a des papillons migrateurs, le monarque, par exemple, aux États-Unis, qui passe l'hiver au Mexique et qui se reproduit jusqu'au Québec, jusqu'au Canada.
La migration suscite de nombreuses questions, et cela depuis de nombreuses années, avec parfois des explications encore plus mystérieuses que le phénomène de la migration lui-même. Au XVIIe siècle, par exemple, les scientifiques expliquaient la disparition hivernale des hirondelles par leur envasement temporaire dans les marais efférents.
Oui, alors ça démontre déjà en premier lieu que les migrations ont attiré les hommes depuis très longtemps. Ils se rendaient bien compte d'un phénomène bizarroïde, avec des disparitions d'espèces d'oiseaux au cours de l'hiver qu'ils n'expliquaient pas. Donc, comme les hirondelles ont l'habitude de se regrouper dans des dortoirs et parfois dans des marais, même souvent dans des marais, eh bien, comme du jour au lendemain ils disparaissaient, l'explication la plus évidente, c'est qu'ils le rentraient dans la vase. Et on a même des gravures sur bois qui datent du XVIe siècle où on voit des pêcheurs avec des filets dans les marais qui ramènent à la fois des poissons et des oiseaux. Donc, bien sûr, il y a un imaginaire très très important. D'autres personnes pensaient qu'ils hivernaient sur la Lune. Bon, voilà, peut-être parce que quand on regarde bien les jours de pleine Lune en période de migration, on peut apercevoir des oiseaux qui passent devant le disque lunaire. D'autres pensaient aussi que les espèces changeaient, se transformaient. Le rouge-queue, petit passereau de chez nous, se transformait en rouge-gorge l'hiver, enfin voilà. Donc beaucoup d'explications qui... En fait, ce phénomène suscitait beaucoup d'interrogations. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir et il en suscite encore beaucoup.
Alors, vous nous avez expliqué les raisons de la migration, donc une alternance entre hivernage et puis période de reproduction. Mais quelle est l'origine même de la migration? J'imagine qu'il faut remonter à plusieurs millénaires.
Alors, il faut remonter à plusieurs millénaires. Bon, les hypothèses qui sont en vigueur en ce moment, c'est d'une part la période de glaciation et également la dérive des continents qui aurait contraint un peu les oiseaux à se déplacer, à trouver des zones plus hospitalières. Bon, d'autres hypothèses, c'est qu'une certaine partie de la population d'une même espèce soit plus curieuse, des individus plus curieux qui ont exploré d'autres territoires, qui sont revenus à leur point de départ, etc., et qui petit à petit ont amorcé des mouvements comme cela, annuels, entre des sites où la nourriture était plus riche. Bon, voilà, il y a plusieurs hypothèses qui ne se contredisent pas. Elles peuvent être tout à fait complémentaires.
Mais au regard de ce que vous nous dites, différent, cela sous-entend qu'à la base, tous les oiseaux sont migrateurs et qu'à partir d'un certain moment, certains se sont sédentarisés? Ou c'est plutôt l'inverse?
Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Cela dépend de beaucoup de choses, en particulier du régime alimentaire aussi, hein. puisque en période de conditions hivernales, c'est quand même ces conditions-là qui sont un peu déterminantes. Il y a certaines espèces qui, par exemple, sont granivores, vont avoir beaucoup moins de problèmes à s'alimenter que des espèces insectivores, comme l'hirondelle, par exemple. Donc voilà, alors, bon, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui prime, est-ce que c'est des sédentaires qui sont devenus migrateurs ou des migrateurs qui sont restés sédentaires. Parmi les espèces, à l'heure actuelle, on trouve un petit peu de tout. Je crois qu'il faut peut-être pas catégoriser tout cela, puisque au sein de la même espèce, on peut tout à fait trouver des individus sédentaires et des individus longs migrateurs qui vont parcourir 3-4 000 kilomètres.
Vous avez un exemple à nous donner ?
Oui, par exemple la bécasse des bois, qui est une espèce que je connais bien. Et on a des oiseaux de cette espèce en France qui nichent dans les forêts du bassin parisien, par exemple, où les conditions hivernales ne sont pas trop trop dures et qui vont rester toute l'année dans ces forêts. Et puis à l'opposé, des oiseaux qui vont nicher au-delà de l'Oural même, hein, dans l'Oural et au-delà de l'Oural, et qui viennent hiverner chez nous. Et c'est la même espèce, bécasse des bois, Scolopax rusticola. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples comme cela.
Alors, on va revenir dans quelques instants plus en détail sur la bécasse. Quel est l'élément déclencheur de la migration ? Ça va être la variation, par exemple, des périodes d'ensoleillement qui va à un moment donné lancer le top départ pour une migration ?
Oui, ce qui est a priori déterminant, c'est le rythme du jour et de la nuit. Hein, il y a un moment où la proportion de jour à la proportion de nuit agit comme un déclencheur de la migration, et ça à travers une glande du cerveau qui s'appelle l'épiphyse, la glande pinéale, qui est donc très impliquée dans les mouvements migratoires. C'est la création d'hormones à partir de cette glande qui va enclencher le processus. Bon, ça c'est vraiment le gros, disons le fond du déclenchement. Ensuite, ça va bien sûr être la raréfaction de la nourriture, ça va être le froid qui arrive, ça va être la difficulté à survivre ou des concentrations, parce qu'avec la production de jeûne, on a énormément d'oiseaux au même endroit. Donc, il y a tout un ensemble ensuite de phénomènes qui vont accélérer le flux migratoire. Mais le premier élément, il est certainement interne à l'oiseau.
Vous parlez d'un phénomène de survie, mais j'imagine que lorsqu'il y a migration, il peut y avoir aussi une forte perte du nombre d'individus. La migration est quelque chose d'épuisant.
C'est un phénomène très risqué pour les oiseaux. Donc, il faut que le risque pris par l'oiseau migrateur, le rendement, en quelque sorte, soit supérieur au fait de rester sur place. Les risques sont multiples. On a, tout le long d'une périple migratoire, les oiseaux peuvent rencontrer des conditions climatiques difficiles. C'est en particulier le cas dans les migrations de printemps, donc les migrations de retour des zones d'hivernage vers les zones de reproduction. Cette période-là, les oiseaux sont très pressés, entre guillemets, de revenir sur les zones de reproduction et sont prêts à prendre des risques pour avoir la plus longue période de reproduction possible, conquérir les meilleures places. Ce sont souvent les mâles qui partent les premiers à cette époque-là. Et il se trouve, quelques années, enfin c'est encore relativement fréquent, où un retour du froid les piège. Donc là, on peut assister à des hécatombes assez importantes. S'ils sentent l'arrivée du froid, ils peuvent faire ce qu'on appelle une rétro-migration. Alors que la direction, à cette époque-là, c'est sud-ouest-nord-est, eh bien on peut voir en avril-mai, avec un retour du froid, des directions opposées, nord-est-sud-ouest, comme une migration d'automne. Bon, c'est évidemment passager, mais le vanneau huppé, par exemple, qui est un limicole assez facile à observer, est capable de ce genre de rétro-migration.
Cette migration donc, provoque une certaine sélection. Est-ce qu'on parle justement d'une sélection des individus les plus robustes qui justement arriveraient à passer cette épreuve de la migration ? Est-ce que c'est une manière de sélectionner naturellement les individus les plus robustes ?
Oui, c'est clair que c'est une manière de sélection. Alors après, bon, il peut y avoir des stratégies un petit peu différentes. On connaît la barge rousse, par exemple, qui apparemment, les mâles dominants laissent partir un petit peu en avance des mâles plus subordonnés, si vous voulez, et ils ne s'engagent dans la migration que si ces mâles subordonnés ne reviennent pas, ne font pas une rétromigration, ont trouvé des conditions idéales pour se reproduire. Donc voilà, il y a des sélections aussi de ce côté-là. Mais de toute façon, la migration est sélective parce qu'elle est risquée. Quand les populations d'oiseaux partent en migration d'automne, ce sont donc les adultes accompagnés de leurs jeunes. Pour certaines espèces, comme les hirondelles, il n'en revient pas une sur deux. Donc voilà, il y a beaucoup de dangers. J'ai parlé tout à l'heure des conditions climatiques, mais il y a aussi les habitats. Les migrateurs qui traversent le Sahara, bien sûr, certains s'arrêtent dans les oasis, mais tous ne repartent pas. Il y a aussi des risques liés aux constructions humaines. On pense aux phares le long des côtes atlantiques qui peuvent piéger aussi beaucoup d'oiseaux dans leurs rayons lumineux. Alors depuis quelques années, depuis même plusieurs dizaines d'années, on a aménagé ces phares. On illumine le fût du phare, et on a beaucoup moins de pertes. Mais voilà, il y a énormément de dangers naturels, plutôt d'origine anthropique, qui peuvent perturber les migrations.
Alors une question que beaucoup de personnes se posent, une question toute simple que je vous adresse, Yves Ferrand, c'est comment ces oiseaux repèrent-ils leur trajectoire, leur chemin, nous-mêmes, avec un GPS, parfois, on n'arrive pas à trouver notre direction. Comment ces oiseaux arrivent-ils à arriver jusqu'à bon port?
Oui, arrivent-ils jusqu'à bon port? Ça, c'est le mystère de la migration qui a toujours interrogé les hommes. Hein. Bon, on en sait un petit peu plus, on sait pas tout, heureusement, d'ailleurs. On en sait un petit peu plus. Apparemment, il y a trois éléments qui peuvent les guider. Hein. On a le champ magnétique terrestre. Il semble bien, des expériences ont montré que les oiseaux étaient sensibles au champ magnétique terrestre. Si en laboratoire, on modifiait ce champ magnétique, ils modifiaient leur direction migratoire. Bon, ça, je dirais que c'est la base, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, le champ magnétique terrestre, c'est la boussole. Bon, ils vont pouvoir s'orienter comme cela. Mais il y a aussi des repères astraux, donc les étoiles quand les migrations se font la nuit, ou le soleil quand les migrations se font de jour. Donc ça, ce sont des modes de navigation. En gros, les oiseaux migrateurs fonctionnent comme un avion, hein. Ils ont un plan de vol. Donc il leur faut une direction, une durée et une distance de vol. Le problème, c'est la direction quelque part. Et on s'est rendu compte ces dernières années que l'étoile polaire, au moins dans l'hémisphère nord, pouvait servir de repère fixe dans le ciel. Hein. À l'heure actuelle, c'est un élément fixe de la voûte céleste et les constellations tournent autour. Et il semble bien que les oiseaux migrateurs apprennent dans leur jeunesse à repérer cette étoile polaire et à apprendre, entre guillemets, le mouvement, la rotation des constellations autour. Donc ça, c'est certainement une des bases aussi de la navigation des migrateurs nocturnes, bien sûr. Mais alors le problème se pose, c'est que quand des migrateurs traversent l'équateur pour aller dans l'hémisphère sud, et il y en a, hein, on a par exemple la sterne arctique, bon c'est un migrateur diurne, mais on a des migrateurs nocturnes qui traversent l'équateur, hein, qui vont aller hiverner en Afrique du Sud, bon il faut qu'ils changent de repère. Or ce repère-là, ils ne l'ont pas appris, puisque ils n'étaient pas dans l'hémisphère sud au moment de leur naissance. Donc vous voyez qu'il reste quand même encore des zones d'ombre dans la navigation des oiseaux pendant la migration.
On parle aussi d'un code génétique, en fait, comme s'ils étaient programmés. C'est acquis aujourd'hui, cette information?
Oui, oui. Il y a à la fois de l'inné et de l'acquis. Bon, l'inné, c'est ce code génétique qui crée le plan de vol, enfin, qui donne le plan de vol. Et puis ensuite, l'acquis, c'est probablement dans les zones d'approche. Si vous voulez, un oiseau qui a hiverné dans une zone, eh bien, l'année suivante va se repérer certainement à quelques éléments du paysage et mieux trouver sa zone d'hivernage. Alors évidemment, la question, c'est la première année, comment ils font? Comment ils font quand ils sont isolés, c'est-à-dire quand ce ne sont pas forcément des familles qui migrent? Et c'est le cas de beaucoup d'oiseaux migrateurs. On connaît des migrateurs qui migrent en famille, comme les oies, les grues. Bon, là, on peut imaginer que les parents enseignent les enfants des routes migratoires, mais beaucoup d'oiseaux migrent, bon, en petits groupes, non familiaux. Et puis, alors encore pire, il y a l'exemple du coucou, qui, tout le monde connaît le coucou, qui, entre guillemets, n'a pas de parents. Donc, il migre tout seul, eh bien, il va quand même hiverner en Afrique. C'est très, très étonnant. Là, c'est le code génétique, clairement, qui détermine le plan de vol, le plan de voyage, quoi.
Alors, l'oie, la grue, je le disais en introduction de cette émission, les hirondelles, les cigognes, bien sûr, et puis la bécasse, hein, dont vous êtes spécialiste. On sait à peu près combien d'espèces en France migrent comme ça chaque année?
Ah, je ne saurais pas vous dire exactement quelles sont les espèces. En plus, ce décompte est difficile, comme je vous le disais au début, puisqu'on a parmi la même espèce des individus sédentaires et des individus migrateurs. Bon, évidemment, on peut considérer qu'à partir du moment où une partie de la population est migratrice, c'est une espèce migratrice, mais je saurais pas vous dire exactement combien il y en a.
En tout cas, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, je le disais, et vous l'avez déjà un peu évoqué, vous travaillez plus particulièrement sur la bécasse et la bécassine. Quelles sont les particularités de ces espèces?
Alors pour ce qui concerne la bécasse des bois, c'est une espèce justement qui regroupe tout le spectre des migrations. C'est-à-dire qu'on a des oiseaux sédentaires en France, hein, par exemple, hein, c'est un très bon exemple. Et puis on a des individus qui sont vraiment très migrateurs, qui nichent à la limite de la zone forestière en Scandinavie et en Russie, et qui vont venir hiverner chez nous, qui vont venir hiverner jusqu'en Espagne, jusqu'en Afrique du Nord. Voilà, pour la même espèce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est une espèce qui migre la nuit et en petits groupes de 5-6 individus. Voilà, bon, on en sait un petit peu plus grâce à des moyens d'études comme le bagage, des balises argos, etc. Mais bon, c'est une espèce qui est intéressante pour cela, parce que le spectre est large. Alors les bécassines sont un petit peu moins, je dirais, dans cette catégorie-là, puisque les bécassines sont pas véritablement sédentaires et les effectifs nicheurs, au moins en France, de bécassines démarrées sont assez peu nombreux. Pour ce qui est de la bécassine sourde, qui est une autre espèce de bécassine qui vient chez nous, là, on a clairement affaire à une espèce migratrice, vraiment une longue migratrice, puisque c'est une espèce qui niche dans la toundra, qui niche donc en zone arctique, qui part tous les ans à peu près aux mêmes dates. Les pics de migration se font à peu près aux mêmes dates en France, vers fin octobre, début novembre. Donc ça, c'est vraiment des schémas très très déterminés, relativement fixes d'une année à l'autre. Donc vous voyez, sur ces espèces, bécasses, bécassines, on a un petit peu toute la gamme.
Et travailler sur ces espèces vous permet aussi de travailler sur leur habitat et sur les conditions d'amélioration de leur habitat?
Oui, on s'intéresse beaucoup aux habitats aussi. Alors, aux habitats de reproduction, aux habitats d'hivernage, que l'on connaît un petit peu moins, ce sont les habitats de halte migratoire. Parce que il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que un oiseau migrateur ne va pas faire ce voyage-là d'une seule traite. Il ne va pas partir un soir ou un matin en disant « bon, ben voilà, je vole jusqu'à ce que je sois arrivé ». C'est quand même pas un avion, justement. Et beaucoup d'espèces font des haltes au cours du voyage migratoire. Et ces haltes, en fait, rassemblent la majorité du temps de migration. On connaît très peu d'espèces qui font des vols quasi en direct. Alors, chez les bécassines, il y en a une, c'est la bécassine double, qui est la troisième espèce que l'on peut voir en Europe, qui, elle, fait quasi en ligne directe 3 à 4 000 km de Scandinavie vers l'Afrique du Sud. Alors, c'est très, très étonnant parce qu'elle survole des habitats qui pourraient l'accueillir, de manière à se recharger en carburant, hein, puisqu'il faut quand même pour tous ces voyages-là du carburant.
Beaucoup
d'énergie.
C'est
la graisse qui est embarquée par les oiseaux avant de partir, hein, pour servir d'énergie. Donc cette espèce-là, elle fait vraiment tout d'une traite, quasiment tout d'une traite. Mais la majorité des oiseaux migrateurs font des haltes. Donc la bécasse des bois fait des haltes. Et on a, si vous voulez, un départ de migration, mettons, entre la mi-septembre et la fin septembre dans l'Oural, pour les populations qui vivent là. Et on a des arrivées de migration en France et dans la péninsule ibérique, avec des pics en fin novembre, début décembre. Vous voyez que ça s'étale sur des semaines et des semaines. Et ça, c'est quand même le schéma le plus classique.
Et alors, puisque vous parlez de distance parcourue, je ne sais pas s'il existe une moyenne des distances parcourues chez les oiseaux migrateurs, à peu près?
On s'intéresse surtout aux extrêmes.
Les extrêmes,
alors? Les extrêmes, là, c'est un Arctique qui fait 10 000 km, quoi, qui va du pôle Nord au pôle Sud, quoi, pour faire simple. Bon. Donc ça, évidemment, c'est extraordinaire pour un oiseau qui n'est pas très, très gros. Donc ça, c'est vraiment le meilleur exemple. Mais ce qu'on appelle long migrateur, ce sont des oiseaux qui, classiquement, font 4 000, 5 000 km. On a, par exemple, une autre espèce, une espèce de grive, la grive Litorne, qui vient hiverner chez nous. On connaît des individus qui viennent du lac Baïkal. Donc, vous voyez que c'est milieu de la Sibérie. Ce sont des performances assez incroyables, hein, pour des animaux qui parfois pèsent quelques dizaines de grammes seulement.
Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à la bécasse. Vous nous disiez effectivement que une partie des bécasses s'installait en Russie, en Scandinavie, avant de revenir en France et donc de faire ainsi le chemin Russie-France. Quelles sont vos relations, justement, vous, en tant que chercheur, avec les équipes en Russie et sur place? Parce que j'imagine que ces études, elles se poursuivent au-delà des frontières.
Ah oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt des études sur les oiseaux migrateurs. Mmh. C'est que ça fait pas voyager que les oiseaux. Donc, on développe des études avec nos collègues russes, russes et scandinaves, mais après être allé en Scandinavie, savoir un petit peu comment les choses se passaient. Et ensuite, en Russie, on s'est rendu compte que le réservoir principal des espèces gibiers migratrices en Europe, c'est quand même la Russie, de par son étendue, de par la diversité de ses milieux. Donc, on a des contacts avec l'université de Saint-Pétersbourg, avec des organismes à Moscou, l'équivalent de l'ONCFS à Moscou, également avec des associations ornithologiques russes. On les a motivés quelque part sur des espèces qui, au départ, on les intéressait moyennement, parce que dans ces pays-là, ces espèces-là, elles disparaissent. Hein. Donc, ils les voient 3-4 mois de l'année, et ensuite, elles disparaissent. Donc, ils sont plus intéressés aux espèces sédentaires. Donc voilà, donc on a des contacts avec les scientifiques russes depuis plus de 15 ans maintenant. Et je pense que c'était un des développements importants de l'ONCFS d'avoir ces contacts-là dans cette partie de l'Europe.
Et pour pouvoir observer ces oiseaux migrateurs, donc plusieurs possibilités, le bagage, hein, ce qu'il y a de plus simple. Et puis également, donc en préparant cette émission, vous me parliez donc d'un suivi satellite, qui est la balise Argos, mais également le GLS et le GPS. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sert le plus? Quel est l'outil qui est le plus intéressant pour justement étudier ces oiseaux migrateurs?
Bon, l'outil de base, c'est le bagage. Hein. Mmh. C'est l'outil historique qui est toujours, bien sûr, utilisé par les ornithologues. Donc le principe est simple, hein, on pose une bague sur la patte de l'oiseau, cette bague est numérotée, chaque oiseau est identifié. Une fois que l'oiseau est repris, mort ou vivant, hein, il peut être contrôlé par un autre bagueur, on a deux points, un point de départ, un point d'arrivée, et puis on trace une droite. Bon, bien évidemment, ce n'est pas ce que l'oiseau a fait. Donc les renseignements que l'on tire du bagage en termes de migration sont assez limités. On en tire d'autres enseignements, comme des taux de survie, etc. Bon, en termes de migration, c'est assez limité, et c'est pour ça que d'autres outils se sont développés ces dernières années, depuis 20-30 ans. La balise Argos, c'est quelque chose de connu, je pense, par le grand public. Donc, le principe est le suivant, on pose une balise sur un oiseau, cette balise émet un signal, le signal est récupéré par un satellite, et le satellite renvoie l'information sur la Terre. Donc cela est très bien, mais le gros inconvénient, c'est que ça pèse lourd. Donc, on peut mettre des balises Argo sur les baleines, ça va pas les perturber beaucoup.
Sur les oiseaux, c'est
quand
plus
on
délicat.
Les met sur une bécasse ou une bécassine, ça devient un peu plus problématique. Cela dit, maintenant, on a à notre disposition des balises Argo de 8-9 grammes à énergie solaire. Bon, le souci, c'est justement cette énergie solaire qui parfois n'est pas suffisamment puissante pour envoyer le signal. Alors on a d'autres systèmes, comme le GPS, le même que vous avez peut-être à votre voiture. Donc là, c'est une géolocalisation par des satellites. Le problème, c'est qu'il faut récupérer ce GPS sur le dos de l'oiseau pour télécharger les données. Donc, voilà, il y a un petit souci là-dessus. Et puis le GLS, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est fondé sur la captation de la lumière. Et donc, avec une date, une heure de lever du soleil, une heure de coucher de soleil, on a un décalage horaire et on a une position. Donc voilà les outils modernes qui s'améliorent tous les ans. Il n'y a aucun doute. Donc sur la bécasse des bois, on a tenté le GLS, la baguette bien sûr, la balise Argos aussi. Nos collègues espagnols ont équipé quelques oiseaux, ainsi que nos collègues anglais. Bon, l'intérêt, si vous voulez, de ces nouveaux outils, c'est que ce n'est plus une ligne droite entre deux points, mais c'est une vision générale du trajet. Avec les haltes migratoires, avec le temps passé sur ces haltes, avec le parcours exact. Et d'ailleurs, on a quelques suspicions de migration en boucle pour la bécasse des bois, ce qui veut dire qu'elle ne prendrait pas peut-être le même chemin au printemps et à l'automne. Bon, voilà. Ce n'est qu'avec ces outils-là que l'on peut résoudre ou que l'on peut découvrir ce genre de phénomène.
Et établir une cartographie, j'imagine, beaucoup plus fine.
Voilà, absolument.
Dernière question, Yves Ferrand, très rapidement, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Il y a bien sûr une dimension internationale pour ces oiseaux migrateurs, sur ces recherches, et donc l'implication pleine et entière de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, à l'international. Comment cela se traduit-il?
Alors, cette implication, alors je pense que c'est surtout en termes de gestion des oiseaux migrateurs. Nous, à l'ONCFS, on s'intéresse aux espèces chassables en priorité. Cette gestion cynégétique pour ces oiseaux-là, ça suppose une coopération sur toute la chaîne, de la zone de reproduction à la zone d'hivernage. Et il est clair que si des efforts sont faits sur un des maillons de la chaîne et pas sur d'autres, ça va affaiblir l'ensemble.
Donc avoir un même niveau de recherche.
Donc voilà, donc c'est un même niveau de connaissance au moins. Et c'est sûr qu'en Europe, ce n'est pas forcément très facile. On a des pays qui ont des niveaux de vie différents, qui ont des cultures différentes. Donc c'est pour ça qu'on aide. On aide, et en particulier les pays africains, à obtenir des renseignements sur les zones d'hivernage africaines, en particulier les zones humides. L'ONCFS participe au comptage de Wetlands International et dans ce domaine-là.
Eh bien, je vous remercie, Yves Ferrand, de nous avoir donné toutes ces précisions sur les oiseaux migrateurs, et dont un en particulier, la bécasse. Alors, je me permets de rappeler le titre de votre ouvrage, La bécasse des bois, histoire naturelle, publié aux éditions Effet de Lisière, publié en 2009, et un ouvrage qui a reçu deux prix, le prix François Sommer et puis le prix Connaissance de la chasse, deux prix reçus en 2010. Merci à vous d'être venu nous voir.
C'est moi qui vous remercie.